Bonsoir, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, on est lundi, il est 22h, je suis à l'heure, c'est un truc de fou, hein. C'est incroyable, c'est pas comme la semaine dernière, j'avais dit que j'avais fini par résoudre mes problèmes techniques. Voilà, il est 22h, c'est l'heure de Lucarne américaine, le 11e épisode ce soir, qui est donc en direct tous les lundis soirs à 22h, si jamais vous écoutez en replay, mais voilà, je vous invite à venir, comme ceux qui sont déjà présents dans le chat et que je vais saluer, Nostromo, Romano, Alrami, ma foi, et Hygène77. Premier message d'ailleurs dans le chat, bienvenue à toi. Bonsoir à Red aussi qui vient d'arriver. Le principe, je le rappelle, bonsoir au peuple de Lucarne opposée, j'aime bien. Alors vous avez le choix entre les Lucarno et les peuples de Lucarne opposée. Voilà, on peut faire... J'aime bien les deux. Bref, bonsoir à Tupi, j'ai à Pedro Viseu aussi qui sont là. Le principe, si vous ne le connaissez pas, il est simple pour Lucarne américaine. On va passer à peu près une heure à voyager aux Amériques, comme son nom l'indique. On va partir du nord au sud, du nord du Canada jusqu'à la Patagonie chilienne ou Argentine, hein, je le dis toujours, choisissez celle qui pour vous et va le plus loin au sud. Bref, on va passer donc une heure à voyager entre différents pays. On va pas faire tous les pays parce que sinon ça prendrait, vous imaginez, bien plus d'une heure. Mais on essaye de voyager un petit peu, de changer de pays aussi chaque semaine, de ne pas faire tout le temps que les mêmes pays. Et on organise l'émission en deux temps à peu près. Ce soir, il y en aura trois même, à nouveau. Trois temps, d'abord les news, où on va se reconcentrer sur deux, trois nouvelles importantes qu'il faut retenir de la dernière semaine. Ensuite, un dossier. Ce soir, le dossier va parler d'économie en Amérique du Sud. Et on va rester sur l'Amérique du Sud. Je vais en profiter pour... parler un petit peu pas forcément de modèles économiques parce qu'ils sont divers et variés. On va surtout de cette pression économique et de la position économique de la plupart des pays d'Amérique du Sud, notamment vis-à-vis de ce qui se passe chez nous. Et ça sera aussi un moyen d'expliquer pourquoi, à la fameuse question que l'on me pose très souvent, ça vaut quoi ce championnat par rapport à la Ligue 1 ou par rapport à l'Europe ? Vous comprendrez, vous aurez des éléments qui permettent d'étayer le fait qu'à chaque fois, je réponds, on ne peut pas comparer. On va en parlera dans le dossier et dans le troisième temps, il y aura les Golasso Hello qui font leur retour parce qu'on a quand même plusieurs championnats qui ont repris, que ce soit des championnats d'État au Brésil, le championnat d'Argentine, le Mexique joue, la Colombie a repris aussi. Donc ça reprend, on reprend le rythme petit à petit, donc les Golasso Hello seront de retour. De l'Arctique à l'Antarctique, exactement, merci Red, c'est vrai, tu as raison. Est-ce qu'on va revoir les buts de Boca Arentinos ? Écoute, dans l'after, hein, on fera un after et on se fera une compilation de tout ce qui s'est passé pendant ce match la nuit dernière. On s'est régalé. Bonsoir à Hiltizer aussi. Bienvenue à toi. On va donc pouvoir y aller si vous êtes confortablement installé. Vous avez le programme. On est parti pour environ une heure, je le disais. On va démarrer donc forcément par les news de la semaine. On va démarrer, je le disais, il y a quelques instants en préambule. Ça reprend un petit peu partout en Amérique du Sud et ça a repris notamment en Colombie. Et une fois encore, malheureusement, on pourrait parler de football, parce que vous verrez peut-être que dans les Golasso Hello, il y aura un petit peu de Colombie, mais malheureusement, une fois encore, la principale information de la semaine, elle ne s'est pas forcément passée sur le rectangle vert, mais en dehors, on va une fois de plus parler d'un scandale ou un petit peu de choses qui font vraiment honte pour le coup. Je le disais, le championnat a repris, j'espère que vous avez lu le guide concocté par Pierre sur Lucarne opposée, sinon je vous invite à le relire. Mais voilà, et quelques jours, tout semblait bien, hein, franchement, tout semblait pas trop mal pour bien partir, et quelques jours avant la reprise de la saison, la Di Maior avait posté un très très beau clip justement pour montrer ce que c'était que le football en Colombie en termes de passion dans les tribunes. Sauf que première journée de championnat ce week-end, Millonarios se déplaçait à Santa Marta pour affronter l'Union Magdalena et il s'est passé ceci, le bus, vous le voyez peut-être sur les images, le bus des joueurs de Millonarios a été sauvagement attaqué. C'est la première horreur de l'année hein, vécue au pays. Le bus a été attaqué bien avant d'entrer dans le stade. Je n'ai pas trop exactement l'emplacement où il a été attaqué. Bref, tout ça pour dire que les photos sont assez impressionnantes. Vous voyez peut-être un petit peu la vitre cassée. Je peux vous montrer aussi le type de projectile qu'ils ont reçu dans le bus. Ça vous donne une idée de la taille des trucs qui se sont pris sur la tête. Donc voilà, on avait eu l'année dernière les affrontements entre les Barras qui avaient mis... qui avait menacé, qui avait même arrêté certains matchs. On se souvient du fameux Atlético Nacional contre Junior. Là, c'est carrément le bus qui est pris à partie par, on ne sait pas qui, hein, des supporters. Il y a eu donc cela et il y a eu des conséquences puisqu'il y a eu des blessés au sein de Millonarios, à commencer par le gardien remplaçant Ivan Arboleda, qui a été ensuite évacué et emmené à l'hôpital. Jeter Valencia, qui est aussi remplaçant, a été touché. Et un membre de la délégation, Oscar Cortés, trois personnes du club qui ont été blessées à la suite de cette agression, hein, tout simplement. Les premiers éléments que l'on a depuis, histoire de se rassurer un petit peu, c'est que ça va, ils ne sont pas dans un... Enfin, voilà, leur état de santé n'est pas grave, ils sont blessés, ça c'est clair. Il y a des examens qui ont été menés parce qu'il y a aussi des bris de verre, hein, qui ont volé un petit peu par rapport à des bouts de verre qu'ils auraient pu prendre dans les yeux, etc. etc. Ivan Arboleda, que vous voyez allongé ici, a été coupé à plusieurs endroits, hein, sur son corps, concrètement, mais apparemment ça va. Pas de blessure grave, on va dire. Hein. Apparemment, ça va. Je ne sais pas si on peut dire ça va, mais pas de blessure grave. Le problème, et je parlais de honte, je parlais donc des débordements que l'on a régulièrement en Colombie. Le problème, c'est ce qu'il va se passer, ce qu'il s'est passé après. Alors, évidemment, ouais, scandaleux, le mot est faible, on est d'accord. Évidemment, Millonarios a publié un communiqué, justement, dans lequel ils expliquent, hein, qu'ils sont les blessés, les touchés. Ils parlent d'Arboleda, ils parlent d'Oscar Cortés. Et de Jeder Valencia, ils parlent de tout cela, ils expliquent à quel point voilà, c'est absolument scandaleux. La Di Maior, quant à elle, a également publié un communiqué officiel dans lequel elle a annoncé que la partie allait être, que le match ne se jouerait pas, hein, forcément, bah forcément, on a envie de dire, mais vous allez voir pourquoi je précise, je mets un petit point sur le forcément. Donc la Di Maior a publié très rapidement un communiqué pour expliquer que le match ne serait pas joué, mais justement, si je parle de honte aussi, c'est par rapport à la réaction d'Union Magdalena, le club qui accueillait, et de ses dirigeants. Union Magdalena a publié 2 tweets à la suite de ces débordements que vous voyez ici. Si vous êtes sur YouTube, si vous écoutez le podcast, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ce qu'il y a dedans concrètement. Dans le premier tweet, elle se décharge totalement de toute responsabilité en expliquant, et c'est un peu le départ, hein, de ce tweet, que l'incident a eu lieu très très loin du stade, hein, donc en gros très très loin de leur lieu de leur juridiction presque, j'ai envie de dire. Donc, c'est arrivé très très loin et que pendant ce temps-là, bah, les supporters et les dirigeants du club, eux, ils étaient tranquillement au Sierra Nevada, qui est le nom du stade, en train d'attendre le match. C'est un petit peu terrible. Ils expliquent aussi que l'institution, donc le club, garantit que le spectacle aura lieu avec toutes les mesures de sécurité et que donc ils rejettent ces actes-là, mais... Ils rajoutent, ils remettent une couche derrière pour expliquer que ça a eu lieu loin de leur stade. Vous devinez tout de suite pourquoi, vous vous souvenez peut-être des histoires de River Boca, de la finale de Libertadores en 2018, avec cette notion de savoir à partir de quel moment on entre dans le périmètre du stade et donc on envoie des responsabilités. C'est-à-dire, si c'est dans le périmètre du stade, la responsabilité, elle est pour l'organisateur, pour le club qui reçoit. C'était tout l'élément, hein, de River Boca, par exemple. Donc voilà, là, eux, vous voyez les 2 tweets qui ont été publiés. Vous notez un point de détail qui est quand même assez important, c'est qu'il n'y a absolument rien concernant les joueurs blessés, aucune notion de solidarité, d'empathie, de quoi que ce soit, rien. 2 tweets, juste pour dire, c'est pas notre faute. Voilà, nous, on attendait Pénard au stade, ce qui s'est passé, c'est pas nous. Voilà. Et ce n'est pas notre responsabilité. Bref, ce qui est encore plus terrible dans l'histoire, c'est que selon un média colombien qui s'appelle Football Red, le président d'Union Magdalena, Alberto Garzón, a tenté de faire pression sur son collègue Enrique Camacho et d'autres dirigeants de Millonarios pour que le match ait lieu comme prévu. Voilà. Donc tout cela, c'est toujours la même histoire. Vous voyez à quel point on est un petit peu dans la honte. Bonsoir à Pierre, la Colombie est-elle injouable dans la catégorie « je ne sais pas vendre mon championnat et je fais n'importe quoi » Je ne sais pas en fait, parce qu'il communique bien. La Di Maior, franchement, il y a eu des choses. On a passé le clip tout à l'heure, à l'instant, là-dessus, qui est plutôt intéressant, qui est plutôt sympathique, qui est plutôt sympa. Il y a des choses qui sont bien faites, mais voilà. Là, on est face à l'irresponsabilité totale de dirigeants. Tout le monde va essayer de se laver les mains. On se souvient des débordements de l'année dernière. Il n'y a jamais de décision, hein, et c'est toujours la même chose que l'on dit. C'est terrible. Hein. On est reparti comme avant. Hein. Rien qui change. Aucune décision n'est prise. Ce que l'on sait donc, c'est que la Di Maior va reprogrammer le match. On ne sait pas trop quand, parce qu'il y a des problèmes de lieu pour recevoir, il y a des problèmes de délocaliser, de regarder aussi, parce qu'il y a une histoire de concert de Shakira, je crois, qui met un peu le bazar dans la disponibilité des stades. Enfin bon, bref. Mais il est aussi possible, en fonction des responsabilités, que le match ne se rejoue pas et qu'il y ait des sanctions contre Union Magdalena. L'affaire sera à suivre. On verra. On sait que jusqu'ici, à chaque fois qu'il y a des débordements, je dis à chaque fois affaire à suivre et il ne se passe rien. On verra s'il ne se passe rien cette fois-ci. Mais bon, ça redémarre très fort. Union Magdalena, j'ai entendu parler deux fois d'eux. Les deux fois, c'était pas pour de bonnes raisons, nous dit César. Ouais, c'est un peu ça. Après, c'est la tradition, hein. C'est un peu la tradition à l'Union Magdalena. Regardons le proprio et c'est bon, on a compris. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur Union Magdalena et historiquement parlant aussi. Le fait est que voilà, ça démarre très très fort. L'Union Magdalena donne presque l'impression de n'en avoir rien à faire, totalement. Et la seule chose qui lui importe, c'est de ne pas être jugé responsable de ce qui s'est passé pour ne pas prendre de sanctions, que ce soit économique ou en termes de points ou en termes de huis clos, de stade interdit et de choses comme ça. La seule chose qui lui importe, c'est cela. Voilà, tout simplement. On suivra l'affaire. On ne sait pas s'il y aura des lendemains, des conséquences, des vraies conséquences. Hein. Je vous rappelle que régulièrement dans Lucarne américaine, on parle des problèmes qui viennent toucher le football colombien. On parle des problèmes de débordement en tribune, hors des terrains. On se souvient de plusieurs actes extrêmement violents entre supporters, supporters-joueurs. Là, on est à nouveau sur du supporter-joueur. On se rappelle aussi que très souvent, hein, c'est terrible à dire, mais rappelez-vous aussi que ça ne concerne pas que les clubs. À la Copa América, c'était aussi le problème. Dans les tribunes, le fameux Colombie-Uruguay, il y a eu des problèmes avec les supporters colombiens. Donc, voilà, il y a un ménage qui devrait être fait, qui n'est toujours pas fait. Et vous voyez que 2025, nouvelle année, nouveau tournoi, on redémarre exactement sur les mêmes bases et on repense malheureusement à ce joli petit clip de la Di Maior qui, là, a pris un coup de vieux direct, en fait, concrètement. Voilà, on va passer à la deuxième news. Là, les deux prochaines news vont être beaucoup plus sympas, beaucoup plus légères et tranquilles. On ne va pas non plus faire des news qui nous dépriment chaque semaine. On ne va pas non plus passer notre temps à faire déprimer les gens sur le football sud-américain, hein, parce que ce n'est pas non plus l'idée et parce que ce n'est pas non plus totalement déprimant chaque semaine non plus. Hein, on va pas... Voilà, enfin, c'est toujours pareil. Hein, tu peux avoir deux visions du football dans quelle que soit la région du monde. Soit tu passes ta vie à regarder le négatif, soit aussi tu appuies un petit peu sur le positif et tu peux même l'étendre à autre chose que le football. Bref, plus sympa donc, on va parler d'une annonce qui a été faite la semaine dernière en Équateur et on va parler de droits télé faite par Equavisa parce que le groupe Equavision, qui possède Equavisa, a annoncé qu'il diffusera des rencontres de la prochaine saison, de la saison 2025 de Liga Pro, la première division équatorienne qui reprend le 14 février. Cela veut dire quoi concrètement? Vous pouvez me dire, ouais, bon, super, encore un groupe qui acquiert les droits télé. Non, c'est pas anodin parce que ça veut dire que les supporters de n'importe quel club dans tout le pays pourront suivre les matchs du tournoi professionnel, donc de l'élite équatorienne, de la première division, gratuitement sur les plateformes du groupe, à savoir Equavisa ou une plateforme qui s'appelle Equavisa Play. Bref, on parle de deux matchs par journée qui vont être diffusés par la plateforme, ce qui veut dire qu'en Équateur, vous avez, si vous êtes fan de foot et que vous êtes équatorien, que vous voulez regarder votre première division, chaque week-end, vous avez deux matchs gratuits. Forcément, vous n'aurez pas forcément les meilleures affiches, mais à une époque où on parle beaucoup de visibilité des championnats, notamment le nôtre, par exemple, la Ligue 1, voilà, vous avez deux matchs qui sont diffusés sur ce qu'on appelle la télé ouverte, mais c'est la télé publique, hein, la télé gratuite, concrètement, la TNT presque chez nous, on pourrait dire, pour regarder ces matchs-là. Alors, ce n'est pas une exception, parce que je vous rappelle quand même que l'Argentine le faisait, hein, jusqu'à encore l'année dernière, parce que TV Publica passait deux matchs par semaine. Ce n'est plus le cas, parce que le contrat de sous-traitance, de sous-licence entre l'AFA et l'un des diffuseurs qui est ESPN a été rompu par la Fédération Argentine. Mais il est toujours possible quand même, pour ceux qui ont le câble, de regarder deux matchs gratuits sur la plateforme, sur la chaîne gratuite d'ESPN chaque semaine en Argentine. Donc, il y a quand même encore de la première division gratuite en Argentine sur à la télé. Bon, c'est pareil, on va pas se mentir, ce ne sont pas les meilleurs matchs hein, qui sont diffusés, mais tout ça pour dire que ça reste quand même, ça laisse la possibilité de regarder du football gratuitement à la télé. Et c'est important, ça a son sens. Et surtout, J'en profite parce que cette nouvelle sur l'Équateur qui donc est en train de revient vers la télé gratuite, je termine ma parenthèse argentine, le contrat a été rompu par l'AFA, il se dit qu'il y a un projet de la Fédération argentine. Oui, mais alors, Football para Todos, c'était autre chose, Red le Rouge. Et puis là, alors, me lance pas sur Football para Todos parce que Football para Todos, OK, sur le principe, c'était bien. Dans les faits, c'était du détournement d'argent public. Donc, bon, on va... voilà, je me suis un peu pris la tête avec Raquel Garrido sur Twitter à l'époque. On va pas remettre ça ici. Mais voilà, sur le principe, c'était très bien. Dans les faits, c'était du détournement d'argent public pour aller alimenter des systèmes corrompus. Donc, voilà. Mais pour le public, oui, c'était bien, tous les matchs étaient gratuits. Bref, il fallait se taper toutes les pubs gouvernementales à la mi-temps et avant les matchs, mais au moins, on avait du football gratuit. Alors, si je disais que je vais terminer ma parenthèse argentine, si le contrat a été rompu entre l'AFA et la télé publique, c'est justement parce que l'AFA, et Chiqui Tapia, donc, est en conflit avec Javier Milei, et donc le gouvernement, et donc la télé publique argentine. C'est pour ça. Il reste des matchs gratuits. Mais ils ne sont plus sur la télé publique, c'est un petit peu l'idée. Et il se murmure, il se dit même que la Fédération argentine, et ça va faire un petit peu écho à ce que vous entendez par exemple en Ligue 1, avec la LFP, que la Fédération argentine envisage d'avoir sa propre plateforme de diffusion des matchs, et que ça commencerait à essayer d'aller vers cela. Reste à savoir si elle serait gratuite ou pas, mais elle veut vraisemblablement avoir une propre plateforme dans ce sens-là, dédiée à son football, rien qu'à elle. On verra. Le fait est que c'est ce qu'il faut retenir, que ce soit en Équateur ou en Argentine, par exemple, les matchs sont disponibles. Deux matchs par semaine sont disponibles gratuitement. Et ça me permet donc de parler, puisque je parle de football gratuit, de football d'élite gratuit. Ça sera aussi le cas au Brésil cette année pour le championnat brésilien. Alors, je vais essayer de vous expliquer très brièvement parce que il y a eu des choses qui se sont passées l'année dernière et il faut prendre en compte deux éléments sur les droits télé brésiliens. Je ne vais pas entrer dans le détail des droits télé, leurs montants et tout. Je parlerai un petit peu de droits télé dans le dossier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Brésil, les clubs se sont, on va dire, un petit peu divisés en deux associations. On va parler d'associations de clubs. Vous avez d'un côté ce que l'on appelle la LFU, pour Liga Forte União do Futebol Brasileirão. Super pour l'accent, on dirait du Pierre. Bref, la LFU qui regroupe, vous le voyez, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport et Vasco. Là, ce ne sont que les clubs de première division, parce qu'il y a aussi des clubs de série B qui sont là-dedans. Je suis désolé, Pierre. Donc, je vais vous donner que les clubs de série A qui sont dans ces associations-là. Donc, vous avez d'un côté la LFU et de l'autre côté, vous avez la Libra. La Libra qui, elle, concerne et regroupe surtout, c'est pour Liga do Futebol Brasileiro, Libra, qui regroupe donc Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, Grêmio, Santos, Atlético Mineiro, Bahia et Vitória. Je crois que j'ai dit Sao Paulo, j'ai peut-être dit Sao Paulo. Et vous voyez, et Red Bull Bragantino. Bref, tout ça pour dire que vous avez deux associations de clubs. Et ce qu'il s'est passé au Brésil, c'est que ces deux associations, se sont mis à négocier chacune de leur côté leur contrat de diffusion avec différents opérateurs. Il en ressort que de cela que la Libra, elle, a fini par trouver un accord, avec Globo. Donc tous les matchs de la Libra seront diffusés par Globo, que ce soit sur les réseaux gratuits de la Globo ou sur les réseaux payants du groupe Globo. Pardon. De son côté, elle, la LFU, a divisé son offre. Elle a fait des packs, elle a fait plusieurs packs où en fait, elle n'a pas vendu l'ensemble des matchs des équipes de l'association, mais genre deux matchs par week-end à l'un, deux matchs par week-end à l'autre, etc. etc. Elle l'a réparti entre Record, qui est une chaîne gratuite, qui est une chaîne de la télé brésilienne, qui retrouve du coup le droit de diffusion du Brasileirão. Je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il ne l'avait plus. Et Prime et Caz TV. Caz TV, vous en avez forcément entendu parler parce qu'il y a eu le fameux scandale avec la diffusion de la Ligue 1 sur YouTube, parce que Caz TV est une chaîne qui est présente sur YouTube. Cela veut dire quoi concrètement? Que les clubs de la LFU vont être en grande partie visibles de manière gratuite. Alors, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner à l'international, comment ça va répartir. Je rappelle que si vous êtes en France et que vous voulez suivre le championnat brésilien, il n'y a qu'une solution pour l'instant, c'est un VPN plus Fanatiz. Est-ce que ça fonctionnera avec un VPN pour regarder Caz TV, Record, etc. ? Probablement. Mais tout ça pour dire qu'il va y avoir énormément de matchs gratuits chaque semaine du championnat brésilien, qui est, et je le rappelle, et j'en parlerai tout à l'heure dans l'économie du football sud-américain, le grand championnat en termes de puissance économique et puissance donc forcément des clubs d'Amérique du Sud. C'est un petit peu, si vous voulez, la première ligue d'Amérique de la CONMEBOL, hein, le Brésil. Donc concrètement, il y aura plein de matchs gratuits. Et en gros, pour essayer de vous expliquer concrètement ce que ça veut dire, ce genre d'accord, ce genre de discrimination entre LFU et Libra, ça veut dire que, par exemple, quand vous aurez un Flamengo-Corinthians, Flamengo de la Libra, Corinthians de la LFU, ce match-là sera diffusé sur les chaînes gratuites ou payantes de la Globo. Par contre, le retour, Corinthians-Flamengo, donc le club de la LFU qui accueille celui de la Libra, lui, sera soit sur Record, soit sur Amazon, parce qu'il y a Amazon aussi qui a récupéré des droits avec Prime, soit sur YouTube avec KZTV. Voilà, ou quelque autre partenaire que la LFU viendrait à signer. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être un peu un casse-tête, va falloir jongler entre les différents canaux, mais qu'il y a plusieurs canaux gratuits pour suivre le football brésilien en 2025, quand on est brésilien. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que oui, il est encore largement possible de diffuser ces matchs de première division de manière gratuite en 2025. Voilà, je rappelle que puisqu'on est dans lucarne américaine, la MLS tout au nord, la MLS passe par Apple, hein, passe par Apple TV et le MLS Season Pass. Vous pouvez souscrire le MLS Season Pass, mais si vous ne le faites pas, pendant la phase régulière de la MLS et pendant les débuts des playoffs, vous avez des matchs gratuits tous les week-ends. Voilà. Tout ça pour dire que, et j'insiste là-dessus, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire, et les modèles économiques ne sont pas en danger. J'ai déjà parlé du modèle économique de la MLS. Je pourrais parler, on va parler un petit peu de la puissance économique du Brésil qui n'est plus à démontrer. Et d'ailleurs, sachez qu'en morcelant ces droits télé, en les vendant à différentes plateformes, ils ont de meilleurs droits télé. Je n'ai pas le détail sous les yeux, j'ai plus en tête le montant global que cela représente, mais pour dire les choses un petit peu, un petit peu comme ça, ils se mettent bien, les clubs brésiliens. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est possible d'avoir des modèles où dedans, dans l'offre, il y a du football gratuit. Alors évidemment, pas forcément tous les matchs gratuits, mais il y a des matchs gratuits. Et chaque semaine, chaque week-end, au Brésil, en Argentine, en Équateur, en MLS et dans bien d'autres championnats. J'en profite pour saluer le retour qui vient d'arriver dans le chat. Et on va passer sur la troisième nouvelle de la semaine. Pareil, plutôt légère et plutôt sympa en fait. On parlait de foot gratuit, on parlait justement de public, d'accueil du public. Eh bien, on va parler de stade, on va parler d'Independiente, le club argentin, le club d'Avellaneda, puisque le site d'Oble Amarilla a révélé que le club était sur le point de mettre en place, de rénover son stade, son Libertadores de América. Selon donc ce site, ils attendent l'aval d'un trust pour financer justement ces travaux. Ce trust s'appelle Azura Partners. Cette histoire doit passer devant l'assemblée du club pour procéder donc à la rénovation de leur stade pour un coût de zéro, tout simplement. Alors voilà le stade et voici entre guillemets un petit peu les projets qui sont derrière ce Libertadores de América. L'idée pour les travaux, c'est que, alors, assez important et assez intéressant dans le principe, parce que forcément, ils ne vont pas changer de place. Ça, en Argentine, c'est totalement exclu pour 99% des clubs. On se souvient, par exemple, des projets de nouveaux stades de Boca, avec certains qui projetaient de quitter le quartier de la Boca et de quitter l'emplacement actuel de la Bombonera. À chaque fois, c'était... C'était le carnage absolu dans les réactions. Et c'est pour ça aussi, pour l'instant, que ça retarde un petit peu, parce qu'il faut gérer, mais on en a déjà beaucoup parlé, de comment rénover la Bombonera avec le quartier à côté. Si vous n'y êtes jamais allé, vous comprendrez un jour en y allant peut-être, mais c'est que ça déborde un petit peu sur la rue, et il y a des maisons, et on ne peut pas agrandir la Bombonera sans toucher les maisons du quartier, et les maisons du quartier appartiennent à des gens. Voilà, concrètement. Et puis, il y a des accords à passer avec le gouvernement local, enfin, etc., etc. Bref. Parenthèse fermée, on est sur Independiente, on est sur le Libertadores de América. L'idée, pas de changement d'emplacement, augmentation de la capacité du stade de 16 000 places par l'ajout d'un étage supplémentaire, tout simplement. Et surtout, la couverture entière de l'ensemble des tribunes, parce que pour l'instant, il n'est pas du tout couvert, hein, enfin, il n'est pas couvert, le Libertadores de América. Et voilà, il prévoit en plus, en outre, dedans, d'installer un restaurant, d'installer un musée du club. Et donc, vous allez me dire, bah voilà, ça a un coût. Comment est-ce qu'un club argentin peut financer ça, et surtout qu'on va en parler tout à l'heure de l'économie, vous allez voir qu'elle est précaire partout en Amérique du Sud. Comment ils peuvent financer ça? C'est avec ce fameux trust qui s'appelle Azura Partners. Et en fait, concrètement, c'est ce groupe-là, ce fonds-là, qui va investir dans ces travaux-là et va récupérer en contrepartie l'exploitation commerciale de l'ensemble des nouveaux espaces générés par ces travaux. Donc concrètement, ça veut dire que les 16 000 places supplémentaires n'appartiennent pas, entre guillemets, ou ne rapportent pas à Independiente, mais rapporteront à Azura Partners, que le restaurant rapportera à Azura Partners, que le musée rapportera à Azura Partners. Alors, je le disais, on parle des 15 000 places, on parle aussi de nouveaux parkings, de loges flambant neuves, etc., etc. Donc l'ensemble de ces nouveautés sera, choisissez le temps que vous voulez, exploité commercialement parlant uniquement par Azura Partners. C'est cela qui doit être validé. Normalement, l'exploitation est à 100% pendant 10 ans. Ça, c'est ce que nous explique Doblé à Maria et dans les projets. Ensuite, il y aura pendant 10 ans, le club ne gagne. Je vais revenir sur ton message, Red Rouge. Je termine ma chose. Pendant 10 ans, l'exploitation de ces nouvelles extensions, on va dire, on va les appeler ces nouvelles extensions, est entièrement pour Azura Partners. Et ensuite, la question, c'est de savoir, il y a deux options, soit 50% pour l'un et pour l'autre pendant 5 ans, soit on repart sur une autre décennie avec 30% seulement pour Azura Partners. Le club ne gagnera rien, oui et non. Le club ne gagnera rien sur les nouveautés. Donc oui, effectivement, il y a de l'argent à perdre avec les loges rénovées. Si c'est concerne la rénovation des loges, voilà, c'est de l'argent qui part. Les 16 000 places, c'est de l'argent qui part, le restaurant, le musée, mais le club garde son stade et garde la billetterie sur les autres places du stade. Voilà. Bon, c'est des espèces de compromis et c'est aussi des compromis que tu es obligé de faire quand tu n'as pas le choix, concrètement, hein, quand tu n'as absolument pas d'autre choix pour essayer de moderniser tes stades. Ce que l'on sait, ce que Doblé à Maria nous explique aussi, c'est que les travaux commenceraient cette année, commenceraient en mars-avril, si l'Assemblée valide le projet, et s'étendraient sur une période de 18 mois. Ils seraient menés par la même entreprise, BMA et Studio, qui s'est occupée de la transformation complète et de la rénovation complète du Monumental. Voilà. Concrètement, ça serait eux qui se chargeraient de ces travaux-là, et on voit à quel point ça a fonctionné du côté du Monumental. Et c'est, vraiment, on est dans un processus quand même, mine de rien, de rénovation globale des grands stades pour la plupart des équipes. Je parle de Boca qui cherche quand même toujours son projet, mais ça reste quand même une volonté. On sait que ça fait un peu serpent de mer, mais ça reste une volonté qui est accélérée encore plus maintenant que l'on voit le Monumental. Independiente va donc s'y mettre. D'autres clubs ont changé de stade de manière assez récente. On pensait à Estudiantes, par exemple. Mais il y a aussi d'autres clubs qui ont déjà commencé des travaux au sein de leur tribune et aussi vont démarrer de nouveaux travaux de modernisation de ce qui s'appelle la Visera. Ça, je parle pour Newell's, dont vous voyez l'image actuellement. Donc on a ce processus général, ils ont commencé à moderniser et là leur idée c'est de construire 22 loges supplémentaires, notamment une aire d'hospitalité, etc., etc. Bref, et des loges qui sont très particulières parce que vous le voyez sur le dessin, donc ce sont des loges ils ont prévu de construire 22 loges VIP dans cette tribune-là, la Visera, et en fait c'est la zone dans laquelle il y a les caméras de télé par exemple, et en fait concrètement, l'idée, c'est que les gens puissent s'asseoir directement au bord du terrain, que les loges donnent directement au bord du terrain. C'est une tribune que l'on ne voit jamais à la télévision, puisque les caméras sont de ce côté-là. Tout cela, ça entre dans un processus, entre guillemets, de modernisation, je le disais, qui a déjà été lancé au Bielsa. Il y a des tribunes qui sont refaites. Il y a une nouvelle salle de presse qui a été construite à côté. Il y a un nouveau centre de formation et des nouveaux systèmes d'accueil pour les membres, les enfants, les jeunes qui sont à l'académie, au centre de formation, pardon. Et donc, voilà, il y a une nouvelle résidence pour les jeunes qui sera ouverte au centre Griffa. Donc, voilà, il y a tout un mécanisme de modernisation dans beaucoup de stades argentins. Reste à trouver les finances. Certains clubs arrivent à les financer eux-mêmes. Tous n'en sont pas capables. Et parfois, ils arrivent à trouver des leviers comme Independiente. Et finalement, c'est aussi... On en revenait tout à l'heure. Vous voyez que tout est un petit peu lié. On parlait des droits télé. c'est aussi le fameux producto argentin qu'on essaye maintenant, enfin, au sein de certains clubs, en tout cas de beaucoup de clubs, de valoriser, de rendre un produit un petit peu plus, justement, exportable à l'étranger, parce que c'est vrai que très souvent, et on y a droit, hein, on l'entend, hein, sur la structure des stades, les terrains, etc. etc. Voilà, ils ne veulent plus trop l'entendre ça, donc ils essayent de se moderniser. On peut saluer tout cela. Justement, je vais saluer aussi Filiusé parce que concrètement, on a fait un petit peu le tour des news de la semaine. Voyez, j'ai essayé quand même de mettre un petit peu de choses un petit peu plus légères, un petit peu plus sympas. Mais voilà, il y a donc ces projets de modernisation. On va attendre de voir qui va suivre, qui va continuer derrière en Argentine. Forcément, tout le monde attend, évidemment, Boca. Non, l'émission n'est pas terminée. Il reste le dossier, Filiusé. On va aller sur le dossier dans un instant. Et il restera les Golasso Hello derrière. Donc, ça va. T'as raté le premier tiers, le premier gros tiers de l'émission. Il va te rester le dossier et les Golasso pour rester là. Justement, comme on a terminé sur ces news de la semaine, on va aller directement sur le dossier. Je le disais, le dossier va s'intéresser à la notion d'économie en Amérique du Sud, d'économie du football en Amérique du Sud. Je vais essayer de ne pas trop vous noyer dans les chiffres, mais il va y avoir forcément quelques chiffres que je vais donner. J'ai essayé de synthétiser, je ne vais pas y aller pays par pays, sinon c'est interminable. Et justement, là, pour le coup, je vais véritablement vous noyer dans les chiffres. Donc, ce n'est pas l'idée. On va parler de tout cela. Et pourquoi on va parler de tout cela ? Parce que c'est vrai que très souvent, que ça soit dans les lives de Lucarne Opposée, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit parfois même par mail, on me demande, ou on nous demande, hein, à tous ceux qui sont à Hello, de comparer nos championnats, de dire ça vaut quoi par exemple, le championnat d'Argentine par rapport à la Ligue 1 et tout. Et à chaque fois, cette réponse terrible, c'est « je suis désolé, on ne peut pas comparer, je ne sais pas ». Et pourquoi ? Parmi les éléments, il y a plein d'éléments, et il y a un élément forcément économique, et c'est pour cela que je veux insister un petit peu là-dessus. Et justement, je vais commencer par poser quelques points qui, justement, vont vous permettre de poser des repères et permettre surtout d'expliquer déjà, en quelques mots, pourquoi il n'est pas possible de comparer les championnats sud-américains avec tout ce que vous connaissez, tout ce que nous connaissons en Europe. Et je le disais, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais je vais vous en donner quelques-uns quand même qui sont importants pour que vous compreniez et que vous mesuriez la chose. Et on va s'intéresser, donc, je le disais, juste aux aspects économiques. L'année dernière, Peñarol est allé en demi-finale de la Copa Libertadores. On a tous suivi cette épopée. On a tous rêvé d'un River Peñarol en finale parce que ça aurait été absolument magnifique pour la symbolique. Ça n'a pas été le cas, mais Peñarol est allé en demi-finale, a éliminé notamment Flamengo au cours de son parcours. Bref, le budget de Peñarol en 2024, donc, a été publié, hein, a été rendu public par... a été publié par le groupe Ovacion, qui est un média, le grand média argentin, uruguayen, pardon. Le budget de la saison de Peñarol l'année dernière est de 23 millions d'euros. J'essaye de vous donner les chiffres en euros, hein, comme ça on peut comparer. 23 millions d'euros en 2023-2024, si on le met sur une perspective européenne, si on le met sur une perspective française, l'année dernière, la saison dernière, donc, c'était le budget de Clermont qui a fini dernier de Ligue 1. Voilà, ça vous donne un premier point de comparaison. On parle de Peñarol, on va dire c'est l'Uruguay, c'est parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent en Uruguay. On va aller du côté de l'Argentine. Je parlais de Boca il y a un instant. L'année dernière, le budget de Boca a été... il est public, hein, il est connu. Les comptes de Boca sont publics. Je mettrai le lien dans la description. Le budget de Boca a donc été publié en même temps que les comptes du club. Le budget est d'environ 32 millions d'euros. Ça veut dire que l'année dernière, en 2024, le budget de Boca est inférieur à celui du Havre, qui était 15e de Ligue 1. Le Havre, c'était 35 millions d'euros de mémoire. Bref, dernier chiffre, et vous allez voir à quel point c'est encore plus fou. Independiente del Valle, un club dont on parle absolument tout le temps, beaucoup, forcément, énormément, parce que c'est un club qui est en train de créer, qui crée l'Équateur d'aujourd'hui, qui a des succès continentaux, de Sudamericana notamment. Bref, l'année dernière, en 2024, donc, le budget d'Independiente del Valle, c'est 8,5 millions d'euros. Le plus gros budget du championnat d'Équateur, c'est Barcelona, c'est 12 millions d'euros. À titre de comparaison, vous me dites « Ouais, mais t'es en train d'aller sur les petits et les petits. » Très bien, je vais vous donner un gros. Le budget de Flamengo, par exemple, l'année dernière, en 2024, donc, était de 185 millions d'euros. À l'échelle, c'est ça, exactement, Red. J'ai pas osé le dire. Independiente del Valle, c'est Bordeaux en National 2. Bref, le budget de Flamengo l'année dernière était de 185 millions d'euros. Si vous le placez, si vous placez économiquement parlant Flamengo en Ligue 1, vous êtes cinquième du championnat entre Monaco et Lens, concrètement. Voilà. Vous êtes donc Flamengo, qui est le club le plus puissant d'Amérique du Sud en termes économiques, et donc cinquième de Ligue 1. Et quand vous savez à quel point la Ligue 1 pèse économiquement parlant en Europe, voilà, ça vous replace un petit peu tout cela. Ça, c'était ses repères. Ils étaient importants. Je sais que j'ai donné des chiffres. C'était un peu... voilà. Mais il va y en avoir, hein, il va y en avoir quelques-uns, chiffres. Mais c'est important quand même de parler de tout cela. Et c'est aussi un élément de base quand vous voulez commencer à essayer de comparer, à essayer de trouver... Et je comprends, hein, c'est naturel de vouloir essayer de trouver des repères. Mais ce point-là est important. Ajouter à cela, avec n'importe quelle grande ligue européenne, hein, ça c'est normal qu'on puisse comparer, mais ajouter à cela les contraintes, les contraintes géographiques dont on parle parfois. Quand vous jouez la Libertadores, vous pouvez très bien aller vous retrouver en milieu de semaine, aller jouer à La Paz ou aller jouer maintenant à El Alto, à 4000 mètres d'altitude, en plein milieu de la semaine. Les contraintes logistiques donc que cela impose en termes de déplacement. On ne voyage pas en première classe en Amérique du Sud, on voyage en charter. Parfois, on voyage en bus parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans le pays, on n'a pas le droit de survoler le pays. C'est des choses comme ça. Les équipements, parler des stades il y a un instant. Donc voilà, vous voyez, tout cela, c'est quand même assez compliqué. Mais nous, on va rester focalisé sur l'aspect économique. Vous voyez que les budgets sont quand même faméliques. Et tu le salues à toi, Florenzi, mais 185 millions, la dinguerie. Et on parle du plus gros club en termes économiques d'Amérique du Sud. Hein. On est loin devant tout le monde. Et vous voyez donc, économiquement parlant, tout cela est très précaire. Alors justement, économiquement parlant, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'un club en Amérique du Sud, quels sont les leviers pour qu'un club génère de l'argent en Amérique du Sud? Et vous allez voir pourquoi cette économie-là est extrêmement précaire et surtout dépendante. Grossièrement, un club de foot, c'est un petit peu partout comme ça dans le monde, hein, vous allez me dire. En Amérique du Sud, il a quand même des petites spécificités. Il a cinq principales sources de revenus. Ses performances sportives, ses sociaux et sa billetterie, on va les mettre ensemble. Il n'y a pas de notion de sociaux, par exemple, chez nous. Mais bon, voilà, les sociaux et la billetterie, les droits télé, les revenus commerciaux qu'ils génèrent, vente de maillots, marketing, tout ce que vous voulez, l'image, et les transferts. Concrètement, ce sont ces cinq points-là. Alors, on va regarder, juste comme ça, la prime de résultat. Donc, ce que les clubs touchent concrètement quand ils s'y participent aux compétitions nationales ou internationales. Et justement, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous voyez à quel point la comparaison est extrêmement compliquée. Je vais vous mettre une image, elle va faire plaisir à absolument tous les Lyonnais. Vous avez forcément vu cette image-là quand Botafogo a décroché la dernière Libertadores, cette photo de John Textor avec son chèque de 23 millions de dollars directement dans les caisses d'Eagle. On ne va pas entrer dans le détail sur la façon dont est géré Eagle. 23 millions de dollars, ça fait un petit peu plus de 22 millions d'euros, hein, concrètement. Bref, gardez bien en tête, le vainqueur de la Copa Libertadores a gagné 23 millions d'euros. À titre de comparaison, la saison dernière, uniquement la participation, hein, uniquement, hein, le fait juste d'aller en phase de groupe de la Ligue des Champions rapportait déjà 15,6 millions d'euros. Voilà. Si vous voulez savoir à peu près combien Botafogo a gagné l'année dernière en remportant la Libertadores, sachant qu'en plus, parce que derrière, il faut ajouter les primes, etc., etc., il n'y a pas de prime de participation au groupe quand vous êtes en Copa Libertadores. Par contre, vous prenez 1 million de dollars par match. Voilà, concrètement. Et il y a un bonus de 300 000 dollars américains, hein, les dollars, de 300 000 dollars par victoire. Bref, Botafogo, l'année dernière, a accumulé 32 millions d'euros pour avoir gagné la Libertadores. Je vous laisse essayer de mesurer combien le Real a gagné en décrochant la Copa... La Champions League. Bref, bon. Reste que, et c'est pour le coup, c'est pas vrai, c'est pas faux, parce qu'Alejandro Dominguez insiste tout le temps sur la notion de prime qui augmente chaque année pour les compétitions de la CONMEBOL. 32 millions d'euros, c'est pas mal, quand même. À l'échelle continentale, rappelez-vous les budgets que vous avez donnés, c'est vraiment pas mal. Mais alors, on va regarder à l'échelle locale, parce que là, vous allez voir, parce que tout le monde déjà ne gagne pas la Libertadores ou ne joue pas la Libertadores, donc comment fait un club qui ne joue pas la Libertadores? Le vainqueur du championnat du Brésil, par exemple, lui gagne 10 millions de dollars. Donc, ça fait à peu près 9 millions et demi d'euros. Et c'est une exception. Je disais, le Brésil, c'est le championnat le plus puissant économiquement parlant. Parce que si vous regardez ailleurs, je vais vous donner les chiffres, accrochez-vous, notez-les bien, ça pique très fort. Le vainqueur du championnat d'Équateur gagne 1,2 million de dollars. Donc, en gros, 1 million d'euros. Le vainqueur en Bolivie et en Uruguay, 1 million. En Colombie, 750 000 dollars. On parle de dollars américains. Au Pérou, 650 000. Au Chili, 600 000. Au Paraguay, 540 000. Vous me dites, Nico, t'as pas donné l'Argentine. Le vainqueur du championnat d'Argentine, Vélez, l'année dernière, a gagné 500 000 dollars américains. Un demi-million. À titre de comparaison, au Brésil, celui qui va remporter le championnat de le Paulista, hein, le championnat d'État de Sao Paulo, va gagner 1,6 million de dollars. Il va gagner donc trois fois plus que le champion d'Argentine. On parle d'un championnat d'État. Et si vous voulez d'autres comparaisons, hein, comme cela, le vainqueur de la Kings League, de Gérard Piqué, gagne 1 million de dollars. Voilà. Donc le champion d'Argentine gagne la moitié, hein, tout simplement. Pour vous donner d'autres repères, et vous voyez à quel point les entrées d'argent par rapport aux primes de compétition sont faméliques. Pour vous donner un autre élément de repère, le champion de France de Ligue 2 l'année dernière a touché 2,3 millions d'euros. Le champion de France de Ligue 2 touche 2,3 millions d'euros. Celui de Ligue 1, non, c'est cette année, pardon, peut espérer 22 millions d'euros. Comparez, et vous avez comme ça. Et vous voyez aussi, par exemple, que le champion de Ligue 2 touche plus que 9 des 10 championnats sud-américains. Et au moins deux fois plus que les 10 autres championnats sud-américains. Donc vous comprenez que donc, déjà, quand vous participez à une compétition continentale, vous allez forcément la prioriser parce qu'elle va vous rapporter largement plus que la participation à votre championnat. Vous commencez maintenant à mesurer pourquoi certains clubs argentins, dès que la phase de groupe de Libertadores démarre, ils se focalisent plus sur les matchs de phase de groupe que sur les matchs de championnat, parce qu'une victoire... Un match de groupe de la Libertadores, c'est 1 million de dollars. C'est deux fois plus que s'ils sont champions d'Argentine. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi ça priorise certaines compétitions, pourquoi, du coup, ça a des répercussions sur les compétitions locales. Et donc, vous comprenez que, concrètement, les compétitions nationales ne sont clairement pas un levier pour générer du revenu pour les clubs. Alors, il va en rester trois principaux. Je vais mettre de côté un petit peu la notion de marketing et commerce et activité commerciale parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres. Ce que l'on sait, par exemple, c'est que les trois principaux leviers, ce sont ce qui est socio et billetterie, les droits télé et les transferts. Pour vous donner une idée, en 2023, socio et billetterie en Argentine, ça représente un tiers à peu près des revenus que génère un club. Que génère le club. Les droits télé représentent 17% et les transferts représentent le quart. C'était en 2023, hein. Ça ne cherche qu'à augmenter. Alors, en enchaînant plusieurs qualifs en Libertadores, disons que tu génères de l'argent. Tu génères beaucoup plus d'argent que si tu, te bats tranquillement pour ton championnat. Ça, c'est d'accord. Ton modèle peut tenir, comme tu le dis, hein, comme tu le sous-entends, que si tu participes chaque année à la phase de groupe de la Libertadores, qui est le cas de River, par exemple, tu te mets bien financièrement. D'ailleurs, River est le club qui va le mieux en Argentine financièrement, et c'est pour cela qu'ils sont en train de mettre beaucoup d'argent sur les transferts, parce qu'ils se mettent très bien. On parle de River, je vous ai mis une image de Boca. Ces clubs-là ont énormément de sociaux, donc les sociaux rapportent beaucoup. Par exemple, à Boca, l'ensemble de l'argent généré par les sociaux et la billetterie permet en gros de couvrir les salaires des joueurs. Je schématise, mais pas tant que ça en fait, si je fais le ratio. Ça ne veut pas dire que l'argent des sociaux sert uniquement à payer les joueurs, mais vous voyez ce que je veux dire. En valeur pure, c'est du même niveau. Totalement, Nostromo. Est-ce que la puissance économique du Brésil peut expliquer le fait que ces clubs ont empêché Libertadores de suite? Complètement. Parce que le modèle économique brésilien, et tu vas voir, je vais y revenir, parce que les leviers principaux, ce sont, vous allez vite deviner, les relais principaux, ce sont les droits télé et les transferts. Et justement, on a parlé un petit peu de droits télé, parce que vous imaginez que la plupart des clubs d'Argentine, d'Uruguay, d'Équateur, de Pérou, de Chili... ont un certain nombre de sociaux, mais ils n'ont pas tous des sociaux dans la proportion d'un Boca ou d'un River. Quand vous êtes Defensa y Justicia, vous ne financez pas votre saison avec les sociaux, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc les deux énormes enjeux, les deux principaux leviers, ce sont les droits télé et ce sont les transferts. Et c'est pour ça que c'est important, cette notion de droits télé. Et justement, c'est pour cela aussi que ces droits télé génèrent autant de tensions dans différents pays. Je l'ai évoqué la semaine dernière, le conflit qui oppose la fédération péruvienne avec le diffuseur 1190 Sport à propos des droits de télé. Il y a un conflit avec la fédération. La fédération a rompu le contrat et les clubs sont dans l'incertitude. Certains n'ont pas touché d'argent, ne sont même pas sûrs d'en toucher par rapport à ce qui était promis. Tout le monde se renvoie la balle entre la fédé et le diffuseur. Et le fait est que pour l'instant, les clubs sont en train de dire « Très bien, mais nous, si on n'a pas d'argent, on ne démarre pas le championnat ». En Équateur, je parlais de ce qui s'est passé en Équateur. Il y a eu quand même une réduction des primes de diffusion. Le championnat, lui aussi, a changé d'opérateur. Il est passé de Gol TV à un autre opérateur qui s'appelle Xtream, et les chiffres ont baissé. Et voilà. Et donc, les droits télé deviennent un enjeu absolument essentiel, véritablement essentiel, mais vous allez voir quand même qu'ils sont assez minimes. Alors, Filiusé, tu nous le dis, les droits télé brésiliens, le deal 2022-2024 est immense, effectivement. En gros, pour le Brasileirão, l'année dernière, jusqu'à la renégociation, hein, ce dont j'aurais expliqué dans les news de la semaine, avec chacun qui va de son côté et qui a permis de générer un plus gros pactole, concrètement, les droits télé au Brésil, ça représentait à peu près 350 millions de dollars pour le Brasileirão l'année dernière. Maintenant, je vais vous le comparer avec d'autres pays, et c'est pour cela, et ça va permettre de rebondir sur ce que t'expliquais, Nostromo, sur est-ce que la puissance économique du Brésil explique le fait qu'ils ont empoché Libertadores. Oui, parce qu'elle est folle. 350 millions de dollars de droits télé juste pour le championnat du Brésil, juste pour le championnat du Brésil. À comparaison, l'année dernière, en Argentine, les droits télé pour le championnat, c'était 40 millions d'euros. Le président de Talleres, Andrés Fassi, c'est pas forcément l'homme le plus adorable du monde puisqu'il pousse vers les SAD, puisqu'on en a déjà parlé, hein, très proche de Milei et tout, donc dès qu'il peut taper sur l'AFA, il se gêne pas. Mais il a raison sur un point, c'est que les clubs de l'élite argentine, je rappelle qu'ils étaient 28 l'année dernière, ils sont 30 cette année, ont touché à peu près 2 millions de dollars de droits télé l'année dernière. Et ça, on le retrouve dans les comptes de Boca. Si je vous mettrai le lien, quand vous cliquerez sur le lien, vous verrez les droits télé, ils sont à 2 millions de dollars à peu près, 2 milliards de pesos. C'est absolument terrible, c'est rien. Les droits télé en Argentine, c'est une paille, c'est rien du tout. Donc un club ne peut pas s'appuyer sur les droits télé. Et dans de nombreux championnats, les clubs sont égorgés à cause des droits télé parce qu'ils ne peuvent juste rien faire. Et donc, vous comprenez que les gros clubs ont un petit peu les sociaux pour justement, généralement, essayer de pouvoir survivre. Les droits télé, ils ne peuvent pas trop s'appuyer dessus. Les primes de compétition continentale, bah, ça devient compliqué parce qu'à côté de ça, tu as un Brésil qui est ultra puissant, qui a les meilleurs joueurs, qui a en plus le plus grand nombre de clubs qui participent à la Libertadores, 7. Donc ça devient très difficile de faire des parcours. Et c'est en ça que Peñarol, financièrement parlant, s'est mis très très bien l'année dernière en faisant sa demi-finale de Libertadores. Et donc vous imaginez tout de suite que les autres sont dans une sorte de cercle vicieux absolument inexorable et inéluctable et qui ne fait qu'il n'y reste qu'un seul levier pour s'en sortir, et ce levier, ce sont les transferts. Est-ce que dans tous les pays, les droits télé sont globaux ou certains ont des droits individuels comme le Mexique et le Portugal? C'est variable. Voilà, je parlais dans les news de la semaine, par exemple au Brésil l'année prochaine, les clubs se sont mis de manière, on se sont regroupés en deux grosses associations, ils sont 11 d'un côté, 9 de l'autre pour la Serie A, et chaque association a géré ses droits télé comme il le veut. Il y a des pays où c'est global, je vois Pierre, par exemple, Pierre et la Colombie, pour l'instant c'est Winsport, mais on n'est pas sûr, le contrat se termine à la fin de l'année, je crois. Et il y a quand même des clubs, j'ai vu que Millonarios et l'Atlético Nacional étaient plus ou moins déjà en train d'être en pourparlers avec Disney+. Donc il y a possibilité peut-être que ça parte dans ce sens-là. Le Pérou, pendant un moment, chacun essayait de négocier chacun de son côté. Il y avait des contrats avec Gol TV, il y en a d'autres qui avaient basculé sur d'autres. Donc c'est un petit peu, c'est variable d'un pays à l'autre. C'est pas forcément un truc global. En Uruguay, c'est global, c'est Enfield. Donc voilà. Mais ça dépend, ça vraiment. Ça dépend des pays. Mais pour en revenir à ma discussion sur l'économie, sur les leviers économiques des footballs sud-américains, vous comprenez qu'il n'en reste qu'un. Il n'en reste qu'un. Ce sont les transferts. Et c'est pas anodin d'ailleurs, parce qu'il y a des études qui ont été publiées et on y voit par exemple qu'entre 2014 et 2024, le Brésil et l'Argentine sont dans le top 5 des championnats qui ont le plus gagné d'argent via les transferts. Donc sur la décennie. Argentine et Brésil sont à côté de deux championnats européens. Le Brésil a gagné près d'1,5 milliard d'euros, l'Argentine 1,3, et tout le système, donc en particulier pour les Argentins, les Brésiliens en fait ils arrivent à cumuler tous les avantages, hein, parce qu'ils ont d'énormes droits télé, ils transfèrent beaucoup. Donc vous voyez ce que je veux dire, ils ont un cycle vertueux, les autres ont un cercle vicieux dans lequel il n'y a pas de droits télé. Les sociaux, c'est une part qui compte pour le tiers, mais qui n'est pas forcément extraordinaire. La commercialisation, il n'y en a pas vraiment, c'est difficile le marketing. Les droits télé, vous voyez, ils sont faméliques. Donc, il ne reste véritablement que les transferts. Et on va revenir, On va revenir sur un exemple, sur Independiente del Valle, je le disais, qui a été champion et qui est vraiment un modèle et qui en plus, lui, s'est tourné vers la formation. Ils en avaient marre, entre guillemets, de dépenser de l'argent pour acheter des joueurs. Ils avaient à une époque consacré le tiers de leur budget dans leur centre de formation. Et ils sont gagnants pour le coup, parce qu'en 10 ans, si on prend les chiffres de Transfermarkt, si on cumule les transferts qui sont juste donnés sur Transfermarkt, il en manque probablement, en 10 ans, Independiente del Valle a gagné près de 112 millions d'euros. 112 millions d'euros, rappelez-vous le budget cette année, l'année dernière d'Independiente del Valle, c'était 9,5 millions d'euros. 8,5 millions d'euros, c'est quoi 10 ans de fonctionnement. Alors, on est d'accord que c'est pas, ça ne marche pas comme ça. Hein. On ne transvase pas directement les transferts dans le budget, mais ça vous donne une idée. Et dans ces 112 millions d'euros, on n'inclut pas le transfert de ces deux garçons que vous avez à l'image, que sont Kendry Paez et Justin Lerma. Il y en a pour environ 15-16 millions d'euros à eux deux. En d'autres termes, je le disais, ces entrées d'argent en termes de transfert, ça permet au club de générer l'équivalent de 10 ans de budget. C'est pour cela que le club a réussi à construire son propre stade avec ses fonds. C'est pour cela qu'il rénove ces choses-là. Et il ne s'en sert pas pour recruter de nouveaux joueurs. Un petit peu, mais pas forcément là-dessus. Mais vous voyez à quel point tout est fragile. Parce que, comme le dit Pierre, ils ne peuvent plus retenir leurs meilleurs joueurs, comme le Diablito, comme Mastantuono, qui va partir. Ils sont obligés de signer ces joueurs-là, mais ils sont obligés de les produire. Et donc, on est lié à ça. Et il y a donc cette espèce de servitude par rapport aux puissants qui vont pouvoir leur donner de l'argent pour continuer à former des jeunes de demain. Et vous comprenez donc que dans ce football-là, dans ce football mondialisé, ce n'est pas un problème, la mondialisation du football. Le problème, c'est sa non-régulation. Et donc, vous comprenez qu'il est impossible pour la majorité des championnats sud-américains, tout simplement, de sortir de ce cercle. Ils ne peuvent s'en sortir qu'en vendant des joueurs, qu'en formant des jeunes et qu'en les vendant le plus vite possible, au meilleur prix possible. Et ça permet donc aussi à ceux qui ont de l'argent de continuer de garder les autres sous leur férule, de continuer de les contrôler et de continuer d'asseoir leur puissance en maintenant les autres dans cette précarité. Parce que le jour où ces clubs-là, le jour où Independiente del Valle ne vend plus de joueurs, Independiente del Valle n'a plus rien, n'a plus d'entrée d'argent, pas suffisante en tout cas, pour survivre avec son budget, ou en tout cas va devoir faire des coupes budgétaires. Et donc voilà, vous comprenez qu'on est toujours un petit peu là-dessus. Vous ajoutez à ça le fait qu'il y ait des filiales qui se montent un petit peu partout. Bon, ça, on va là-dessus. Mais vous comprenez aussi et surtout, et c'est vraiment l'objectif et le but de ce dossier, de vous faire comprendre que quand vous voulez découvrir ces championnats-là, quand vous voulez découvrir ces clubs, quand vous voulez découvrir ces compétitions, eh bien, il ne faut pas chercher à comparer parce que vous êtes en train de comparer des choses qui ne peuvent pas l'être, ne serait-ce que sur le plan économique, ne serait-ce que par la puissance de ces clubs-là. Vous êtes des clubs qui sont, à la merci d'autres clubs bien plus puissants qui les contrôlent parce que c'est eux qui détiennent les cordons de la bourse et qui leur permettent de continuer à exister tout simplement. Donc, venez découvrir ces championnats-là, venez découvrir ces clubs-là. Vous allez découvrir forcément des petits jeunes, des jeunes pépites parce qu'ils sont obligés de les faire jouer plus tôt. Mais vous allez aussi découvrir d'autres choses. Mais voilà, essayez donc de sortir de cette notion de vouloir comparer parce que c'est un petit peu l'objectif de ce dossier, je le disais à l'instant. Rien, mais alors absolument rien n'est comparable et certainement pas les aspects économiques. Voilà, on arrive au terme de ce Lucarne américaine. C'était le 11e épisode de l'émission, de ce Tour des Amériques. Je vous avais dit une heure et demie. On est entre les deux, on est pas mal. Quelques rendez-vous comme ça, vous savez que le Sudamericano se joue en ce moment. Ça se joue tous les jours, tous les soirs. Tout le temps, on joue en permanence. Vous savez à quel point cette compétition est extrêmement, dure, physiquement parlant. À ce moment, vous avez un Chili-Pérou et le Pérou mène 2-1 au moment où l'on parle à une demi-heure de la fin. Je vous rappelle que cette compétition est à suivre. On parlait de football gratuit, est à suivre gratuitement et légalement sur le YouTube de la CONMEBOL. Vous avez un Uruguay-Paraguay à 1h30. Vous savez que les horaires, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous donner les horaires. C'est tous les jours, les Sudamericanos, et c'est très simple. Il y a un match à 22h, un match à 1h30, heure française, tous les jours. On fera peut-être d'autres lives à propos pour le Sudamericano. On fera un petit point. On verra quand on pourra. Ça va être compliqué sur la fin de semaine. Il y a un joli Équateur-Brésil vendredi, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Et donc, voilà, ça sera donc tous les jours à 22h ou à minuit, les matchs, pour le premier tour. En tout cas, petite précision, Pas de retour de Dans la Lucarne vendredi, parce que je ne serai pas là. Donc, on essaiera de le faire la semaine suivante pour le programme. Hein, le programme des matchs à regarder ce week-end, ça aura un avantage. C'est que la semaine suivante, en plus, on aura un peu plus de championnats qui reprendront aussi. Donc, on aura un petit peu plus de choix dans les affiches. On essaiera de se faire une soirée Sud-Am dimanche prochain. Parce que celle d'hier, j'ai la sensation qu'elle a, indépendamment du 0-0 entre Boca... et Argentinos, la soirée d'hier était plutôt sympa et on était assez nombreux, donc c'était plutôt sympa. La semaine prochaine, ça joue en milieu de semaine en Argentine, je suis en train de regarder. Et ensuite, le dimanche à 23h, c'est encore Boca, ça sera Boca face à Huracan, ou alors Newell's Aldo Zivi, je pense qu'on ira plus sur Boca-Huracan et on aura du Sudamericano en parallèle. Donc on pourra se faire plaisir. Voilà à peu près pour les rendez-vous. Merci à vous tous d'avoir été présents dans le chat. Toujours un plaisir d'échanger avec vous, toujours un plaisir de vous croiser dans les parages. N'hésitez pas à nous suivre, mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, et peut-être pour les viewers de l'ombre, à nous suivre sur ces différents réseaux sociaux, sur les différents canaux de LOTV, que ce soit Twitch, Kick ou YouTube. Quand on est sur YouTube, c'est les lives sont sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir le doc sur Garincha, sur la chaîne YouTube, si ce n'est pas fait, à le partager au max. Ça serait bien de lui donner la plus large visibilité possible. On se donne donc rendez-vous dimanche prochain pour, sur LOTV pour un live sud-américain. Et sinon, Dans la Lucarne, épisode 12, sort ça lundi prochain, 22h, toujours au même endroit. Salut tout le monde.